je suis Caro.
Salut, ici Louis-Seb de l'émission Les Technopreneurs.
Si t'es comme moi, t'aimes t'inspirer de parcours extraordinaires d'entrepreneurs, de technologies en tout genre, puis pas juste entre gars, là.
Si tu es comme moi, un mordu de technologie et que tu veux toujours être au courant de tout ce qui se passe sur les interwebs,
ben je t'invite à nous écouter tous les dimanches
dès 11h.
Les Technopreneurs, une émission à suivre.
Technologie, entrepreneuriat, actualité, réseautage.
Les Technopreneurs.
Cette deuxième chronique aujourd'hui sur la thématique du marketing d'influence. Aujourd'hui, on va répondre à qui est impliqué dans le marketing d'influence. C'est qui les gens qui vont être plus aptes à travailler avec des créateurs de contenu, les entrepreneurs, les agences de marketing. Qui ça va toucher aussi les auditeurs? C'est très important aussi d'en parler parce qu'on est comme on est le public cible de ces campagnes publicitaires-là. Et aujourd'hui. On va commencer par on va revenir sur le sujet de c'est quoi la différence. C'est quoi la différence entre les créateurs de contenu et les influenceurs. C'est très important
nuance.
Qu'on en parle encore parce qu'il faut arrêter de dire que les créateurs de contenu sont des influenceurs automatiquement. C'est pas le cas. C'est des créateurs de contenu avant tout. C'est eux qui vont créer pour réaliser pour leur plaisir avant tout aussi. Mais les influenceurs, eux, c'est des gens, s'ils se disent qu'ils sont influenceurs, c'est parce qu'ils font vraiment que pour l'argent. Alors, il y a peut-être un petit peu moins d'authenticité dans ce qu'ils font, mais ça se peut qu'ils réussissent très bien aussi, qu'ils puissent bien vendre un produit ou un service à une entreprise par leur talent de communicateur aussi. Mais un influenceur n'est pas un créateur de contenu parce que n'importe qui peut être influenceur. Alors, un influenceur, ça peut être, comme on en parlait à la dernière chronique, ça peut être un créateur de contenu, ça peut être... animateur de télé, de radio,
c'est comme le grand champ, mais dans ce cas-ci, on est plus dans le spécifique.
Exactement,
Créateur de contenu.
Parce que même nous-mêmes, en tant qu'auditeur, on est aussi des influenceurs, parce qu'à Noël, tu parles de ton nouveau gadget que tu t'es acheté, puis là, quelqu'un d'autre dans la famille est intéressé,
va l'acheter. Ah,
c'est ça, exactement, c'est de l'influence, c'est du marketing d'influence, mais c'est indirectement parce que t'es pas payé pour.
Non.
Mais c'est de l'influence, alors t'es un influenceur parce que t'as le résultat de ta démarche, de qu'est-ce que tu as fait, de qu'est-ce que tu as dit, fait en sorte que tu as fait acheter un produit ou un service.
Voilà.
Alors, l'influenceur, il faut voir ça comme quelqu'un qui donne des résultats d'influence.
Super.
C'est très important. Et le créateur de contenu, c'est qui avant tout? C'est qui le créateur de contenu? C'est n'importe qui s'intéresse à publier un peu d'une partie de sa vie, qui a une idée créative,
une passion
justement, qui veut en parler. C'est quelqu'un qui va parler, qui va faire un vlog, qui va parler de son quotidien, de sa vie. C'est quelqu'un qui va parler d'un sujet qui l'aime, quelqu'un qui aime ça, parler de sujets historiques, qui va parler d'histoire, quelqu'un qui va parler de jeux vidéo, quelqu'un qui va parler de littérature. C'est
de recettes, de livres, ça peut être de toutes sortes
de choses. Justement, il y en a beaucoup qui sont dans le sujet de la cuisine végane, la cuisine végétarienne.
Tout à fait.
Et là, ils vont vouloir aller plus loin que juste devenir végane puis devoir partager des recettes. Il y a beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils l'ont envie, parce qu'ils veulent le faire, mais aussi parce qu'ils ont comme objectif de vouloir changer les choses aussi à leur façon.
Super.
Les créateurs de contenu, on peut voir, c'est des créateurs, ils font du podcast, c'est ceux qui font de la radio sur Internet, les podcasts, c'est qu'on peut télécharger, écouter n'importe quand. Ceux qui font de la vidéo, ceux qui font du vlog, ceux qui font des vidéos plus thématiques.
L'écriture, tout simplement, dans le
Exactement.
Blog, tout court.
Ça peut être aussi des gens qui font des courts-métrages ou qui font des longs-métrages, ceux qui ont beaucoup de temps supplémentaire.
Mais il y a des gens qui font pas juste des trucs sur le web non plus.
Exactement.
Puis là, je pense à un spécifiquement, un Lévisien ici, Lucas Jablert, qui est BDiste, qui crée ses propres bandes dessinées, qui fait des blogs, des longs courts-métrages, longs-métrages, qui fait des revues, qui fait...
Exactement, c'est
de
la création de contenu.
Il est carrément dans la création de contenu, lui.
Oui, exactement. Lui, c'est multiplateforme, dans le fond. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est multidisciplinaire. C'est un créateur de contenu qui touche à tout.
Oui.
Et c'est ça, il y en a qui sont de même aussi. Ils vont pas se limiter à un seul média. Ils vont aller dans le plus de médias possible parce qu'ils veulent tout essayer. Puis ça leur permet aussi de trouver leur voie un peu. Et les créateurs, eux, leur objectif, avant tout, c'est vraiment de s'amuser, mais c'est peut-être aussi un jour de gagner leur vie avec ça. Alors, c'est là que le marketing d'influence va venir faire un peu sa place. Parce que beaucoup, on entend beaucoup parler que la monétisation, le fameux 1$ pour 1000 views, C'est pas vraiment vrai, ça. C'était peut-être vrai autrefois, jadis, mais à ce temps, c'est vraiment...
Jadis, on remonte de 10 ans, 15 ans.
De 5 ans, là, mais... ça a changé beaucoup. Alors, on peut pas dire que c'est vraiment... Il y a une échelle, une façon de calculer ça, mais mm-hmm. c'est l'algorithme derrière tout ça. YouTube a des données sur tout le monde. On le sait qu'ils vont aller espionner c'est quoi les sites web qu'ils visitent. C'est quoi les données récoltées avec les réseaux sociaux et Facebook. Ils vont aller chercher des données pour essayer de cibler le plus possible les auditeurs avec de la publicité qui s'appelle le programmatique. Ça, c'est la publicité qui va être automatique. Tu vas visiter un site web, puis après ça, tu as sur Facebook, puis tu as de la publicité de ce site web-là. Ben, c'est justement que la publicité a su que tu as été sur ce site-là. Ça, c'est avec l'aide de Facebook que les gens mettent un petit pixel, ils appellent ça un pixel Facebook sur leur site web, qui va être capable de déterminer que tu as été sur le site, puis la compagnie va être capable de faire du remarketing pour te dire « Hey, tu es allé sur notre site web,
ce que tu étais rendu. »
Exactement. ce type de marketing-là, qui est souvent il est mal vu pour beaucoup de grosses compagnies aussi, parce que des fois, tu peux te ramasser avec des erreurs du système, qui fait en sorte que tu as la publicité qui encourage les créateurs de contenu qui ont peut-être des propos qui ne soient pas vraiment associés à ton entreprise ou que tu sais, une vidéo qui parle de trucs racistes ou tu veux pas être associé à ça
nécessairement. Tu veux pas être associé à ça.
Et on s'appelle du YouTube qu'il y avait eu v'là 2 ans environ où est-ce que beaucoup de grosses compagnies s'étaient détachées de la publicité sur YouTube justement parce que la publicité...
Ils se retrouvaient sur n'importe quoi et exactement. N'importe qui dans le fond.
Exactement. Alors, c'est là que le marketing d'influence peut venir faire une petite nuance à ce domaine-là parce que vous faites affaire directement avec le créateur de contenu lui-même, avec le créateur.
Mais en autant que l'entreprise ait fait sa recherche.
Elle faut faire sa recherche. Alors, c'est vraiment de chercher le bon créateur de contenu, le bon influenceur. On peut faire affaire avec des agences qui vont s'occuper de toute façon à votre place. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais le résultat va être meilleur, ça va être beaucoup plus authentique parce que le créateur de contenu va venir parler de votre produit s'il accepte de faire affaire avec vous, c'est sûr. Il va accepter d'en parler et de le publiciser, de le diffuser à sa façon aussi. Parce qu'il faut vraiment pas que l'entreprise commence à dire on voudrait que tu parles de ça sur ton blog, mais voici le texte. Ne le modifie pas.
Non,
ça ne viendra
pas.
Pas de
même.
Les éditeurs, ils vont s'en rendre compte, puis ils vont voir que c'est de la publicité, ils vont voir que ça n'a juste pas rapport avec le reste du contenu. Puis si le créateur fait ça trop souvent, ben ça se peut qu'il va perdre juste ses éditeurs, puis il va venir un peu porter des problèmes à son authenticité, parce que les gens vont dire, OK, ben lui, c'est un vendu, c'est un influenceur. Comme...
C'est un influenceur léger.
Oui, mais c'est ça. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui doivent être mis en compte là-dedans. Alors, qui sont les créateurs de contenu, qui sont les entrepreneurs qui peuvent faire avec les créateurs de contenu? C'est avant tout des créateurs qui sont dynamiques, qui vont créer du contenu, qui vont être diversifiés, beaucoup diversifiés. Ça va être très important aussi qu'ils se démarquent parce que c'est ce qui fait en sorte que les auditeurs vont venir plus souvent les voir.
Mais tant qu'ils répondent à quelque chose qui intéresse l'auditoire.
Exactement. Alors, s'il y a des thématiques du genre les jeux vidéo, le sport... Et que l'entreprise... les entreprises, bien souvent, sont peut-être les startups, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises vont peut-être faire plus de la programmatique, comme je parlais tantôt avec les gros médias sociaux, parce qu'eux autres, on va le toucher n'importe qui, puis ça dérangera moins. Mais les petites startups, c'est un bon avantage pour eux, à cause surtout les coûts. Oui, il faut payer le créateur de contenu pour son temps qu'il a travaillé, mais il n'y a pas une équipe de 20 personnes comme à la télévision traditionnelle où est-ce que t'as un régisseur, t'as le son, le montage, caméra.
Qui t'a plein d'employés.
Oui, plein d'employés. Le créateur de contenu, lui, il va souvent être seul ou une équipe de 2-3. Alors, il y a moins de ressources à payer. La publicité va être moins chère à fabriquer. Et si elle est faite sur mesure, exactement pour parler à leur auditoire de leur façon, à leur profession, dans le fond, c'est là que ça va venir un meilleur résultat. Là, on parlait que le marketing d'influence va avoir un retour sur investissement d'environ en moyenne de 23 $ pour chaque dollar investi. Ça c'est quand la campagne est bien réussie. Avec les bonnes personnes, avec les bons créateurs de contenu. Mais aussi, il faut investir pour retargeter la création de contenu pour aller chercher via la programmatique, la publicité programmatique, disons sur Facebook. Quand on a une page Facebook, on vient comme payer un montant supplémentaire pour aller chercher de nouvel auditoire avec la publicité puis dire regardez, venez voir ça. Alors, il faut pas se limiter seulement aux créateurs de contenu, mais il y a du travail beaucoup plus
quand
avancé.
Quand tu dis retargeter,
ouais.
Ça veut dire qu'avec le retour sur investissement, tu reprends cet argent-là puis je t'ai suivi.
On peut payer de la publicité pour faire de la publicité sur la publicité. Okay. Alors là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus
oui.
profond, là, mais c'est quelque chose qui se fait aussi, mais c'est ça, le 23$ pour chaque dollar investi, c'est justement qu'il faut prendre en compte que c'est pas uniquement le marketing en tant que tel, la campagne de marketing d'influence, mais aussi tous les détails qui peuvent venir avec. Mais au minimum, il faut vraiment croire que juste le marketing d'influence de base. Si je prends comme exemple Mike Ward, qui fait Mike Ward sous écoute, son podcast, ouais. Lui, il a des millions d'écoutes par mois à cette heure maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'il a commencé ça.
Mm-hmm.
Et lui, il parle de ses commanditaires au début et à la fin de chaque épisode. Même qu'il en parlait autrefois, dans ses débuts, quand il a commencé à avoir des commanditites, il en parlait n'importe quand. Alors, il faisait une joke qui était vraiment déplacée. Puis il disait, ah, ça, c'est une joke de mon commanditaire.
OK.
Il est nommé, mais c'était drôle. Tout le monde a retenu le propos. Tout le monde a retenu la blague.
Puis, ils ont comme fait l'association immédiate avec l'entreprise.
Et vu que c'était un humoriste, bon, on savait que c'était pas vrai. Fait que ça, c'était vraiment authentique. Il est resté lui-même.
Mais là, maintenant, il fait début fin.
Ouais, c'est ça. Là, il est rendu qu'il fait début fin parce qu'il a gagné beaucoup de... Il gagne aussi beaucoup d'argent avec Patreon, une plateforme web en ligne qui permet aux auditeurs de payer pour le créateur de contenu pour qu'il puisse faire ses créations.
Mm-hmm.
Et c'est comme Patreon, c'est comme devenir un patron d'un créateur de contenu. Alors, tu donnes 1$ par mois, mais si tu as 500 personnes qui donnent 1$ par mois, tu te fais déjà 500$ par mois. Alors, c'est lui, il est parmi les plus gros Patreon au monde, qui a le plus de d'abonnés.
Oui. Ben voyons.
Et il y a les commandites aussi. Alors, lui, il offre les épisodes sans publicité maintenant à ses Patreon. Puis, les épisodes qui sont grand public, il y a ses publicités qui sont intégrées par la suite.
Intéressant.
Alors, lui, il fait vraiment du sur mesure. Puis là, il s'adapte un peu à son public, de qui paye, qui paye pas.
Il a dû découvrir tout ça au fil des 10 dernières années.
Ouais, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail.
C'est certain, c'est du travail.
Mais lui, c'est un passionné, Mike Ward, du marketing. Mm-hmm. Il a même étudié dans le domaine. Puis il a réussi à faire quelque chose. Il a réussi aussi à faire connaître le podcast au Québec. C'est un très gros pas qu'il a fait. C'est pas le seul non plus à avoir fait connaître le podcast. On peut penser aussi à Denis Talbot, que quand il a quitté Musique Plus.
Oui, c'est vrai.
Avec Monsieur Net, il s'est lancé sur Twitch par la suite. Là, il a fait 3 épisodes par semaine depuis. Il a eu son 1000e épisode depuis son départ de Musique Plus, voilà 2-3 semaines environ.
OK.
Alors, c'est vraiment que lui s'est installé dans son sous-sol. Il a refait son émission sur le web uniquement, puis tout son public l'a suivi. Alors c'est là qu'on voit que les gens passionnés peuvent aussi dépenser énormément avec tout l'équipement qui est sur place. Et ces chroniqueurs qui viennent sur place, il est capable de payer ces chroniqueurs avec l'argent qu'ils reçoivent de ses commandites. Alors lui, il y a des créateurs de contenu comme eux qui sont très bien installés. Ils ont un gros système.
Mais t'as des plus petits aussi.
Il y a les plus petits aussi, que c'est monsieur, madame, tout le monde.
Qui sont en train de grandir aussi.
Qui grandissent, qui apprennent aussi les réseaux sociaux. Parce que bien souvent, les réseaux sociaux, il y en a qui existent. Il y en a qui se créent, puis qui referment, qui disparaissent. Alors, il y a une évolution constante aussi.
Qui modifie à tous les mois l'algorithme.
Exactement. Alors, pour nous, en tant qu'auditeurs, c'est sûr qu'on joue un rôle important aussi pour le marketing d'influence. Mm-hmm. Parce qu'on écoute ça, ces gens-là qu'on aime beaucoup, puis on veut les aider, mais comment qu'on peut faire? Ben, c'est sûr qu'en allant chez leur commandite, leur commanditaire, c'est là que directement, lui, ils vont voir un résultat de leur campagne de publicité, puis les commanditaires vont voir continuer à faire affaire avec ce créateur de contenu-là. Alors, nous, on a vraiment un rôle à jouer, c'est vraiment de se laisser influencer, mais aussi d'y aller avec la confiance, de donner une confiance au créateur de contenu. Alors, le créateur
encore faut-il qu'il faut qu'il vienne te chercher un peu.
Exactement. Alors, il faut qu'il vende bien son affaire, puis là qu'il faut qu'il reste authentique, puis qu'il parle vraiment, comme je disais, de compagnies de services, de produits qu'ils utiliseraient dans leur vie de tous les jours. Parce que si c'est vraiment, ça vient de nulle part, c'est là qu'ils vont avoir un problème. Ça ne viendra pas toucher les gens directement.
Non, c'est ça.
Je vais parler de. On a parlé du Conseil québécois du commerce de détail qui a organisé l'événement TAG avec la souris des numériques, c'est avec Patrick Ballien, qui est du créateur Ichiku à Montréal.
Qu'on a entendu lors de la première chronique.
Oui, exactement. Qui, lui, fait justement la promotion du domaine du marketing d'influence et qui a fait le petit gala de numériques où est-ce que le 1er octobre 2019. Trois prix ont été remis lors de la soirée. On va voir les trois prix, puis j'ai eu la chance de parler avec chacun des gagnants pour qu'ils puissent nous montrer genre qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce que ça représente pour eux d'avoir gagné ce prix-là. Alors, le prix de l'étoile montante, c'était les créateurs de contenu qui ont grandi très vite et qui avaient moins de 5 ans d'existence. Alors, c'est vraiment qu'ils ont eu du succès rapidement.
Oui, oui.
Et qui se sont démarqués aussi dans leur façon de créer et de présenter le... Alors, on va y aller tout de suite avec les premiers gagnants. C'était Émile Gauthier et Sébastien Lévesque de Distorsion Podcast. Je savais que Sébastien Lévesque et Émile Gauthier du podcast Distorsion. Alors, bonsoir les gars.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, vous avez gagné le prix ce soir de...
Oui, alors, l'étoile montante.
Étoile montante, c'est ça, c'est le vrai nom. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir gagné ce prix-là?
Bien, c'est le fun de voir ça parce qu'on dirait qu'on a toujours fait le podcast, le livre, la télé dans un but d'avancer, mais c'est juste parce qu'on est passionné, entre autres, de ce qu'on fait. Hein. Tu sais, à la base, c'est la passion. Là, oui, on est content, on crée des produits qui sont plus grand public, mais... On dirait qu'on est d'une certaine manière récompensé par les efforts qu'on a mis depuis le début, puis un peu comme tu disais, d'écouter son instinct, puis d'y aller. On y a toujours été comme on le pensait, en fait, sans trop se soucier des autres, puis d'avancer, puis finalement, bien, on se rend compte qu'on a trouvé peut-être un bon filon, une bonne recette, là. Tu sais, j'aime pas ça dire ça, pas une recette, mais tu sais, quelque chose qui plaît, mais à la base, il fallait que ça nous plaise à nous, puis finalement, bien, on se rend compte que les gens aiment ça, là.
Et pouvez-vous nous expliquer, en gros, qu'est-ce que c'est que votre production?
Ben nous, Distorsion, c'est les histoires étranges de l'ère numérique. Donc, moi et Seb, on a commencé un podcast en 2017. On traite d'histoires étranges, de cas de disparition, de crimes non résolus, de légendes urbaines, de choses comme ça. Et puis, petit à petit, c'est devenu un livre qui a été lancé en février dernier, 2019. Et puis, ben maintenant, c'est une série télé qui est diffusée sur Moi et compagnie. Donc, nous, ce qui nous passionne, c'est vraiment les histoires étranges, mais aussi toute la culture numérique, les enjeux technologiques. Et puis, nos trois, si on veut, on peut dire, là, nos trois projets, le télé, livre et podcast, c'est vraiment pour nous trois projets complémentaires. Donc, on essaie de jamais resservir du réchauffé, de toujours essayer d'explorer des nouvelles avenues. Puis, c'est ce qu'on veut continuer de faire aussi au cours des prochaines années, explorer plein d'avenues puis s'amuser.
Parce que c'est la passion
avant tout. Peu
importe
la plateforme. Oui, exactement.
C'est parfait. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite encore pour votre prix.
Merci.
Bien, merci.
Alors, on voit ici que Émile Gauthier et Sébastien Lévesque, avec Distorsion, eux autres, ils ont vraiment commencé avec une passion. Ça a pris 2 ans avant qu'ils puissent vraiment débloquer. Parce que c'est le lancement de leur livre qui a vraiment fait la différence.
Oui.
Qui les a fait connaître.
Multiplateforme. On en a parlé.
Multiplateforme, oui. Eux autres sont devenus multiplateformes via le web. Oui. Alors, avec en plus leur entrée à Moi et compagnie pour leur émission du même nom de Distorsion. Ils ont su se démarquer vraiment très rapidement par la qualité de leur contenu et eux sont ouverts aussi à faire du marketing d'influence avec des entreprises qui voudraient les commanditer. Alors eux voudraient vraiment gagner leur vie de ça, puis je pense qu'ils réussissent déjà assez rapidement.
C'est bien parfait.
Alors pour le deuxième prix, j'ai eu la chance de parler avec Gabriel Girard de Intervenant Gamer. Lui, il a commencé au mois de janvier et ça a débloqué quand même assez vite. Alors on va écouter qu'est-ce qu'il y a à dire puis on revient après. Alors, je suis avec Gabriel Girard de Intervenant Gamer. Alors, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais en général.
Bien, dans le fond, Intervenant Gamer, c'est une plateforme d'écoute pour les jeunes adeptes du jeu vidéo. Fait, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on est des intervenants disponibles sur Twitch. On va aller gamer, on va aller jouer à des jeux vidéo. Et les gens qui veulent venir parler de leurs problématiques ou juste se changer les idées ou briser l'isolement social, on va être disponible pour eux. Fait, ce que ça permet, dans le fond, aux viewers ou ça permet à la communauté, c'est que ça leur permet d'avoir un espace facile d'accès. Ça permet d'avoir un espace qui est sans jugement. Exemple, ils vont pouvoir aller parler de leurs problèmes sans sentir que le jeu vidéo est le problème. L'avantage aussi, ce que ça fait, c'est qu'on a le même langage. Moi, je parle comme les gamers, donc on a le même langage, on va se comprendre. C'est pas un spécialiste de la santé versus le jeune adepte du jeu vidéo. Vraiment ça.
Et toi, d'avoir gagné ce prix-là, parce que toi, tu as eu le prix ce soir du créateur le plus bienveillant de 2019. Alors, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné ce prix-là?
C'est énorme. Je pensais jamais... J'ai commencé à faire l'intervenant gamer en janvier. Donc, je pensais jamais que ça allait prendre autant d'ampleur. Je pensais jamais que ça allait faire une aussi grosse vague. Je pense que c'est une belle façon de remercier, mais en fait, je ne sais pas ce que ça représente. Je suis tellement comme... Je ne sais pas, je suis sans mots. C'est vraiment un...
Merci même pour toute l'équipe qui est avec toi aussi.
C'est ça. C'est vraiment... L'équipe est vraiment présente, on va se le dire. Je les remercie énormément. Mais tout l'investissement qu'on a fait, ça vaut vraiment la peine.
Oui, ça répondait à un besoin.
Oui, le besoin est là, certainement. Mais on a déjà des retours. On a énormément de gens qui viennent nous voir nous remercier parce qu'on les a aidés à quelque part ou quoi que ce soit. Fait que non, je pense que ça montre que le besoin est là, puis que la communauté, puis que même le Québec est peut-être prêt à embarquer là-dedans.
Alors, hey, je te remercie encore et félicitations pour ton prix. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour encore de grossir l'équipe s'il faut.
Ben, merci beaucoup.
Tant que vous venez en aide, c'est parfait pour tout le monde. Ouais. Alors, merci encore.
Merci beaucoup.
Comme on a vu, lui a commencé tout seul, il s'attendait vraiment pas à grand-chose, ben puis non. Ils sont rendus 8 dans leur équipe.
C'est fou, mais c'est tellement important ce qu'il
mais
fait.
Mais c'est
là.
Ça, il y avait un besoin de oui. Venir parler aux jeunes, puis lui avec la plateforme Twitch. C'est venu un peu encadrer, rejoindre son auditoire directement.
C'est venu chercher dans
exactement,
le fond,
de
certaines façons.
Oui, c'est exactement. Puis c'est pour ça que tu sais, il a gagné ce prix-là, il le méritait parce
mais
que
vraiment.
Il s'est démarqué à ce niveau-là. Puis il vient rejoindre, tu sais, on en parle de plus en plus à la télé aussi, que les problèmes de dépendance de jeux vidéo.
Oui.
Aussi du e-sport dans les écoles. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Il y a encore un problème éthique à ce niveau-là. Mais je crois que c'est juste une question d'encadrement à ce niveau-là.
Mais moi, je pense que oui. Puis de qualité de discipline de vie.
Exactement, oui, ben c'est sûr que ce soit les écoles qui le fassent, les gens sont contre ça, mais moi je suis pour ça parce qu'ils vont venir encadrer le problématique.
Mais moi, c'est vaut mieux l'apprendre, justement, que de ne pas l'apprendre et de le subir.
Faire comme si c'était pas là.
Oui,
alors, on le félicite aussi pour son prix, puis vraiment pour son idée de créer du contenu qui vient toucher les jeunes directement. Et on voit que c'est vraiment diversifié, la création de contenu. Alors, lui, c'était pour aider avant tout en faisant quelque chose qu'il aime, c'est jouer à des jeux vidéo.
Parfait.
Et le troisième prix, c'était le créateur qui s'est le plus distingué cette année.
Mm-hmm.
C'est le prix qui a été remis à Manon Lapierre, la petite bête, qui, elle, fait de la cuisine, des recettes en ligne.
Pour vrai?
Son blog. Et elle a eu la chance aussi de participer à la télévision et dans plusieurs autres médias, un peu comme Distorsion.
Mm-hmm.
Mais en tant que chroniqueuse, elle a parlé un peu de son domaine. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'elle a à nous dire.
Alors, je suis avec Manon Lapierre, alias La Petite Bête, qui a gagné le prix ce soir du créateur qui s'est le plus distingué en 2019. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais en gros pour la création de contenu sur le web?
La Petite Bête, c'est d'abord une chaîne YouTube. C'est aussi un blog ou un site web culinaire. Voyage, famille, un peu lifestyle, mais surtout des recettes. On a plus de 430 recettes. Fait que ceux qui ne nous connaissent pas, bien, j'espère que vous avez faim. Il y a beaucoup de contenu à rattraper. On a lancé ça en 2015. Et c'est ça, c'est un projet familial. Moi et mon conjoint, on est là-dessus à temps plein, YouTuber professionnel, blogueur professionnel, puis on se débrouille bien. On est rendu à 80 000 plus abonnés. Là.
OK, alors vous partagez ce prix-là.
Oui, absolument, c'est nous deux.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir gagné ce prix-là ce soir?
Écoute, la définition du prix du créateur qui s'est le plus distingué, ce qu'il cherchait à dire là-dedans, c'est quelqu'un qui, au-delà des plateformes traditionnelles, a réussi à se faire connaître aussi dans d'autres médias, sur d'autres plateformes, en travaillant fort. Puis je l'apprécie énormément parce que c'est vrai que j'ai travaillé très fort.
Ouais.
j'ai eu des segments réguliers aux 2 semaines sur Breakfast Television Montréal pendant plus d'un an. J'étais vraiment triste pour l'équipe quand le show a été cancellé à fin août. C'est tellement triste parce que c'est un super bon morning show. J'ai fait du Global TV aussi avant ça. C'est vrai que j'écris pour Aéroplan. Puis, tu sais, j'essaie de me positionner un peu partout parce que c'est ça qu'on doit faire de nos jours pour en vivre. Tu sais, il faut savoir diversifier ses sources de revenus, de contenu, puis de malheureusement, c'est encore au Québec deux créneaux. T'sais, on dirait qu'il y a des gens qui sont sur le web, puis il y a des gens qui sont à télé. Puis, ça se mélange pas bien encore. Fait qu'il faut travailler vers quelque chose où ces deux mondes-là vont se mélanger mieux, comme ce qu'on voit en Europe en ce moment.
On vit la transition, dans le fond.
Oui, exactement.
Des maisons. Alors, je te remercie beaucoup et félicitations encore pour ton prix.
Merci beaucoup!
Alors, on voit que c'est vraiment... Manon est venue se démarquer, elle et son chum, parce que c'est un projet d'équipe, comme de
mais
famille
vraiment,
qu'elle parlait. Et elle méritait aussi de se distinguer aussi à ce niveau-là, parce qu'elle est venue vraiment repousser les limites avec ses 80 000 auditeurs sur YouTube uniquement, mais c'est son vlog aussi qui est le travail, son implication aussi dans d'autres médias. Alors... On voit en gros le portrait que les créateurs de contenu, c'est du genre diversifié qui peuvent se démarquer par leur passion avant tout.
Tout à fait.
Alors, vraiment, le marketing d'influence qui est basé sur les créateurs de contenu, sur le web, c'est avant tout encourager la diversité créative de ces gens-là. Et ça vient leur donner au moins un montant pour dire les encourager de continuer. Puis en même temps, un retour, leur auditoire peut servir aux entreprises de venir donner de la visibilité sur le web.
Puis, ultimement, ces créateurs de contenu, ça ne leur empêche pas de développer tout autre produit connexe.
Exactement.
Un peu comme les Star Wars de ce monde qui se
exactement.
Créent
oui, beaucoup de créateurs de contenu font leur propre merch, comme ils appellent, leur propre marchandise. Ils vont vendre des t-shirts avec un slogan ou quelque chose qu'ils disent souvent. Des produits dérivés. Alors, c'est ça qu'on va voir un peu plus, genre, dans les prochaines chroniques, de qu'est-ce que... Comment ça, on peut faire le marketing d'influence et pourquoi qu'on devrait le faire.
C'est parfait.
Alors, c'est ce qui concluait ma chronique aujourd'hui.